Studio Tamani, voici nos informations en français.
Il est 8h à Kaindi, dans la ville de Kaï, même heure sur l'ensemble de nos radios partenaires. Monsieur Dame, bonjour et bienvenue à la matinale. Voici les titres. Le chronogramme établi par les opérations référendaires électorales pourrait-il être respecté? En tout cas, jusqu'à présent, l'autorité indépendante de gestion des élections qui doit s'occuper de la question n'est toujours pas opérationnelle. Cependant, un comité de pilotage des élections générales a été créé. Les rideaux sont tombés la semaine dernière sur la première édition de la Semaine nationale de la réconciliation. Dans le centre et le nord du pays, les populations ont salué l'initiative. Elles suggèrent l'implication de tous dans les prochaines éditions. Les usagers de la route Kaï-Bamako et Djema-Kaï déplorent la dégradation de ces voies. Ils interpellent les autorités face au problème. À la présentation, Maria Maiga, la mise en onde est assurée par Nouhoum Djiri. Je vous le disais dans le titre. Pendant que la mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections et son opérationnalisation sont toujours attendues, un comité de pilotage des élections générales vient de voir le jour. Dans cet état de fait, le chronogramme établi pour les opérations référendaires et électorales pourrait-il être respecté? La réponse dans ce reportage de Mamadou Samasekou.
Pour le cadre d'échange des partis et regroupement des partis politiques pour une transition réussie, il faut que les autorités parlent moins et agissent vite. Ibrahima Tamiga, un des porte-parole du cadre d'échange.
On ne pourra pas procéder à toutes les réformes espérées aujourd'hui sous cette transition. Mais les réformes minimales pouvant nous permettre et d'organiser des élections et de contribuer à l'amélioration de la question sécuritaire sont pour nous prioritaires. Donc il faut qu'on aille vite, qu'on parle moins et qu'on agisse plus.
Pendant ce temps, les soutiens de la transition estiment que rien ne presse. Ils ajoutent qu'en plus, le référendum qui est le scrutin à organiser en premier lieu est prévu dans une année. Oumar Diarra, membre de la Convention pour le Mali CPM.
Et nous, on pense que ce n'est pas un problème, hein, parce que la loi électorale a été adoptée et promulguée il n'y a pas longtemps. Bon, l'âge est à un stade avancé, d'après le Premier ministre même par intérim. Donc, nous voyons qu'il n'y a pas de retard. Et même si ce calendrier n'est pas respecté comme certains le voudraient, je pense que ce n'est pas ça la priorité du peuple malien aujourd'hui. Et ça va commencer par les référendums. Bon, les référendums, c'est dans un an. Rien n'est perdu.
Ces inquiétudes des uns et des autres se passent à un moment où le discours du Premier ministre par intérim devant la tribune des Nations Unies continue de susciter des réactions à l'intérieur du Mali et dans le reste du monde.
La question des futures élections a été également abordée dans le discours prononcé par le chef du gouvernement par intérim à l'Assemblée générale des Nations Unies. La réponse n'est pas passée inaperçue à Bamako. Toutefois, le regard des partis politiques sur cette intervention est différent. Si certains se reconnaissent dans les propos du colonel Abdoulaye Maïga, d'autres en revanche ne les partagent pas. Ces derniers trouvent que c'est un discours va-t-en-guerre. Le reportage de Moussa Malé Sissoko avec la voix de Aboubakrine Agmohamedine Yata.
Des réactions des formations politiques au propos du Premier ministre par intérim sont divergentes. Les partis pour le renouveau et le développement PRD se retrouvent dans ses discours. Sa présidente Assetou Sangaré soutient que l'allocution du colonel se veut une rupture dans la pratique et la vision du Mali de demain.
Nous assistons à un changement du monde. Les cartes du monde sont en train d'être redistribuées. Le Mali ne doit pas rester en marge de ça. Après tout ce que nous avons vu dans les 12 dernières années, mais nous ne pouvons plus continuer sur cette voie. Il faut reconnaître qu'on a vu les limites et les résultats de cette voie. Donc le PRD se reconnaît dans ce discours.
Pourtant, ce point de vue n'est pas partagé par l'Action républicaine pour le progrès, ARP, un autre groupement politique. Les partis estiment que l'intervention du chef du gouvernement était agressive et peu porteuse de défis du Mali. Zeynep Evelyne Diack, vice-présidente de l'ARP.
Nous, nous ne retrouvons pas dans les propos du PM parce que nous pensions qu'il allait aller plutôt exposer les problèmes sécuritaires actuellement auxquels nous sommes confrontés. C'est des gros discours, oui, patriotiques pour certains. Pour nous, ce n'est vraiment rien à voir avec le patriotisme. On est parti pour exposer des problèmes qui concernent notre pays. On n'est pas parti pour dénigrer telle personne. On voudrait que les autorités sortent de cet état d'esprit qui n'apporte rien à un état.
À noter que les autorités ivoiriennes, ni celles du Niger et de la France interpellées dans les discours du Mali, n'ont pas encore réagi officiellement à l'intervention du Premier ministre par intérim le 24 septembre dernier.
Vos critiques et suggestions sont les bienvenues sur notre page Facebook ou encore sur Twitter. La première édition de la Semaine nationale de réconciliation s'est tenue du 25 au 21 septembre dernier. L'objectif de cette semaine était de réunir tous les Maliens dans la paix et la cohésion sociale. Dans les régions de Badjangara et Tombouctou, la population estime que l'initiative a eu un impact positif dans la ville. Toutefois, certains soulignent des lacunes. Reportage de Fatoumata Maïga.
La population de Badjangara a magnifié la Semaine nationale de la réconciliation. Grâce à cette initiative, certains déplacés à cause de l'insécurité sont revenus, explique Mbeda Ongoiba, président du conseil de cercle de Badjangara.
Depuis que ça a été lancé, ça a impacté aujourd'hui. À travers ça, on a célébré le 22 septembre avec éclat. L'imam qui fait 2 ans à Bamako, il est revenu, il a repris sa place, il a fait prier. Un aussi de chef de quartier qui était parti, il est revenu.
À Tombouctou, la semaine n'a pas connu une grande mobilisation. Pour certains citoyens, la réussite d'un tel événement nécessite la participation de toutes les couches sociales.
Cela a permis un brassage culturel. Les différentes ethnies se sont retrouvées et ils se sont exprimés à travers des prestations.
Cette semaine fait en sorte que tout le monde se retrouve dans un espace échangé, dans la paix, la cohésion. Cela fera que nos cœurs se réconcilient.
Les lacunes que je constate à travers cette semaine de réconciliation, il n'y a pas eu une grande mobilisation parce qu'il faut faire intéresser les populations de l'intérieur pour que ça soit une fête nationale.
Notons que nos différentes tentatives pour faire réagir les organisateurs sur le bilan de l'événement sont restées vaines.
Un sujet signé Fatoumata Maïga. Sur un tout autre sujet à présent, au nord et au centre, l'insécurité a mis fin aux activités touristiques. Les acteurs du secteur déplorent ses nombreuses conséquences et craignent encore le pire. Cependant, pour répondre à ces difficultés, le gouvernement a décidé de miser sur le tourisme domestique. Il a lancé ainsi un projet dénommé Bamako City Tour qui pourra être fait dans les autres régions. C'est dans ce contexte qu'est célébré aujourd'hui, mardi 27 septembre, la Journée internationale du tourisme. Un reportage de Issa Oumar Togola.
Dans la région de Badjangara, le tourisme n'est désormais qu'un souvenir à cause de l'insécurité. Selon Ankunja Debabanapo, guide touristique, cela a eu de graves conséquences sur la population.
Nous craignons que ces gens se comparent à l'exil parce qu'ils sont déjà commencés. Il y a des gens qui faisaient pour suivre le tourisme qui sont devenus fous. D'autres sont pris l'exil et puis en allant, ils se sont péris, ils se sont dispersés dans la nature, dans les déserts comme ça. D'autres même sont noyés avec les bateaux.
Même constat à Tombouctou. Bamoué Babadiko, qui est également un guide touristique, nous témoigne que le secteur est au point mort.
Aujourd'hui, le tourisme, on n'en parle même pas à Tombouctou. Aujourd'hui, tous les secteurs sont infectés par cette crise sécuritaire. On ne peut pas aller par voie terrestre. Il faut un avion.
Pour redynamiser le secteur, le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie et du Tourisme a mis en place le projet Bamako City Tour. Et c'est l'Agence pour la promotion du tourisme au Mali qui est chargée de son exécution. Sidi Keïta, directeur de l'agence.
C'est d'inverser la tendance dans 10-15 ans maximum en réduisant fortement la dépendance du tourisme malien, mais également faire en sorte que nous puissions réduire un peu l'impact des crises sécuritaires et sanitaires sur les activités touristiques.
Ce projet qui est à sa phase pilote a pris fin ce dimanche. Sidi Keïta s'est dit satisfait et affirme que le projet sera réalisé dans les autres régions dans les années à venir.
Rendons-nous à l'intérieur du pays par la route. L'axe Kaï-Bamako-Idjema-Kaï devient un calvaire pour les usagers. En cette période hivernale, la route s'est fortement dégradée. Les usagers interpellent les autorités face à la situation. Celles-ci, de leur côté, assurent que des mesures sont déjà en cours pour le démarrage des travaux. De Kaï, nous retrouvons notre correspondant Mamadou Samba Diallo.
Nous sommes déçus de l'état de dégradation de la route, regrette des passagers. Selon eux, c'est un risque de voyager maintenant sur l'axe Kaï-Bamako.
Bon, l'état de la route n'est pas en bon état, surtout à partir de Djema, les routes sont très abîmées et en très mauvais état. Et puis, c'est très fatigant en fait, quoi. Et puis, ça retarde beaucoup. Donc, les routes ont besoin de réparation en fait.
L'axe Bamako-Kaï est dégradé et le voyage n'est pas du tout confortable.
Les responsables de la direction régionale des routes affirme qu'ils sont à pied d'œuvre pour la réhabilitation de cette voie. Il indique que les marchés ont été déjà passés aux entreprises chargées de l'entretien et la construction des routes. Mustapha Sissoko, directeur régional des routes de Kaye.
Pour ce qui est des mesures en cours, tronçon de Djema à Sandaré, ce tronçon-là est prévu en entretien courant. Le marché est passé, la remise des sites a été faite à l'entreprise. Maintenant, des dispositions sont en cours pour que les travaux d'entretien commencent sur ce tronçon-là. Pour ce qui est du tronçon Sandaré-Kaye, il est prévu la reconstruction. Le marché des travaux est passé à l'entreprise COVEC, le marché de contrôle au bureau de Tirsoustec et le financement, c'est budget national. Le démarrage est imminent, mais on ne peut pas dire exactement au niveau régional quand est-ce que ça va démarrer.
Avant le démarrage des travaux de ce tronçon, les populations vont prendre leur mal en patience. De Kaye Mahamadou Samba Diallo pour Studio Tamani.
Allons au marché où le prix de l'oignon connaît une baisse. Le kilogramme vendu auparavant à 800 francs CFA est cédé aujourd'hui à 400 ou 500 francs CFA. Mais le prix de l'alvéole d'œuf devient de plus en plus cher. Les vendeurs expliquent cette augmentation par la cherté de l'aliment bétail. Kwan Jara et Alassane Diakité ont fait un tour au marché suivant leur reportage.
Au marché de Médine, le prix de certains produits alimentaires, notamment l'oignon, commence à baisser. Pour le vendeur, cela s'explique par le fait que le marché est de plus en plus ravitaillé en oignons. Mokhtar Tapili, vendeur d'oignons.
Le kilo d'oignons
est à 400 francs aujourd'hui, mais c'était à plus de 500 francs avant. Les sacs d'oignons est cédé à 10 000 francs, ce qui fait 400 francs le kilo en détail. Quand c'était moins cher, on achetait à 7 500 francs, mais je sais que ça va baisser jusqu'à 6 500 francs ou 7 000 francs.
Cependant, cette baisse n'est pas constatée sur le prix des œufs. L'alvéole d'œuf passe de 1 500 à 2 700 francs, soit une augmentation de plus de 1 000 francs. Les vendeurs d'œufs expliquent cette augmentation par la rareté des œufs.
Souvent, il nous arrive de vendre beaucoup d'œufs, mais parfois, on passe toute la journée sans acheter. C'est dû au fait que les gens n'ont pas d'argent et que les œufs sont chers actuellement. Le prix de l'alvéole est à 2 700 francs, alors que c'était vendu à 1 500 francs.
Au regard de la situation, les commerçants soulignent que le prix des produits alimentaires connaîtront une baisse significative dans quelques mois.
Parlons à présent de cet atelier national pour discuter des réformes au sein des structures de sécurité sociale qui a débuté lundi dernier à Bamako. Le thème est la transposition dans la législation nationale de la directive de conférence interafricaine de la prévoyance sociale CIPRES et relative au socle juridique de sécurité sociale. Jusqu'au 1er octobre prochain, les acteurs discuteront et mettront à la disposition des autorités un document permettant la mise en œuvre des réformes pour une meilleure protection sociale des assurés selon les autorités sanitaires. Écoutons le ministre de la Santé et du Développement social, Mme Djaminatou Sankari. Elle est au micro de Aissata Diarra.
Le socle juridique de sécurité sociale est appelé à devenir dans les États membres de la conférence un véritable gouvernail devant amener à construire les bases solides sur lesquelles reposera les systèmes nationaux de sécurité sociale adaptés aux conditions et aux spécificités de chaque État et s'intégrant dans un cadre normatif régional. En cela, nous sommes en adéquation avec notre slogan « Pour un pays en marche, chacun compte pour l'égalité des chances, plus d'équité et de justice sociale ». Je lance du haut de cette tribune un vibrant appel à tous les présidents et membres des conseils d'administration des organismes de prévention sociale pour travailler à l'unisson pour une couverture sociale plus étendue et plus équitable de toutes les couches en besoin de protection sociale.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Écho de nos régions, commençons par Kaye où les femmes de l'Afiabougou ont bénéficié d'un appui technique pour la production et la commercialisation du savon. L'activité a été initiée le samedi dernier par le mouvement Ambico. L'objectif, selon les initiateurs, est de permettre à ces femmes d'être autonomes et de participer au développement de leur localité. Les bénéficiaires ont salué le geste. Terminons par Massina où Maxi Vacances Show a pris fin le week-end dernier en présence du préfet du cercle. Pendant 4 semaines, les jeunes des 6 quartiers de la ville se sont vivement exprimés sur les thèmes comme l'extrémisme violent, la violence basée sur le genre, l'exode rural et le mariage précoce. L'activité a été organisée par le Conseil communal de la jeunesse de Massina. C'est la fin donc de cette édition. Merci de l'avoir suivi. C'est à la présentation Maria Maïga, nous vous direz assurer la mise en onde. Ne décrochez pas car juste après la question A, vous aurez la version en bambara avec Aissata Diarra. Le sceau, les armoiries de la République, la devise nationale, le drapeau et l'hymne national constituent les symboles de la République du Mali. Chacun de ces symboles est chargé et de sens et porteur de valeurs, déclarent des magistrats. Ils ajoutent qu'un bon citoyen se doit de les connaître, de s'imprégner de leurs valeurs pour pouvoir les respecter convenablement. Dans le cadre de la célébration de la 62e fête de l'indépendance du Mali, qui a été célébré le jeudi dernier, Mamadou Samaseko a tendu son micro à Mohamed Maouroud Nadjim, directeur national des affaires judiciaires et du sceau.
Le sceau comporte comme signe distinctif le lion. Il comporte comme signe distinctif également un épi de mil, un épi de riz, une tête de bœuf. Et ces signes-là ont chacun un sens.
Revenons aux armoiries, on voit une sorte de mosquée, des flèches et des arcs. On voit aussi le soleil levant. Ça doit avoir un sens tout ça, n'est-ce pas?
La mosquée renvoie principalement non pas à la religion musulmane, contrairement à ce que on a tendance à penser. La mosquée renvoie plutôt au style architectural de notre zone culturelle, de notre espace culturel si vous voulez. On parle souvent de style architectural soudanais ou soudanien. La mosquée là est représentative de ce style architectural à travers lequel en principe tout Malien doit pouvoir se reconnaître. C'est un symbole également que nous montrons à la face du reste du monde pour dire voilà ce qui nous caractérise, nous, du point de vue architectural. Parce que la mosquée de Djenné est effectivement un chef-d'œuvre architectural. C'est reconnu partout. Quant aux arcs qui sont placés l'un en face de l'autre, ces arcs-là renvoient également au caractère de nos ancêtres, à une des caractéristiques de nos ancêtres qui étaient quand même des guerriers, qui se sont toujours battus, qui n'ont jamais accepté la domination de quelqu'un. Et cet arc, cette flèche-là, montre les armes dont ils ont fait usage dans le temps. C'est juste symbolique pour garantir leur liberté. Le soleil levant, qui est peint en jaune, nous replace au lendemain de notre accession à l'indépendance nationale. Pour dire que c'est un nouveau soleil qui se lève. L'oiseau Douga. Douga, c'est le vautour. Le vautour incarne la majesté. Le vautour incarne le fait de survoler et d'être au-dessus de la mêlée, si vous voulez.
Et si on revenait au drapeau vert jaune rouge? Je ne sais pas si c'est bien prononcé.
Vous faites bien d'attirer l'attention sur le fait que vous ne l'avez pas bien prononcé. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de jaune dans le drapeau malien. La loi qui crée le drapeau malien parle de couleurs vert, or et rouge. La couleur verte renvoie aux prairies vertes, aux champs verts. Ça veut dire qu'il y a à manger. On est dans la prospérité. Maintenant, le jaune. Je vous ai répété. Mais en réalité, ce n'est pas le jaune, hein, c'est l'or. Et l'or renvoie aux richesses immenses dont regorgent le sol et le sous-sol et quelquefois les cours de rivière du Mali. Pas aujourd'hui, depuis très longtemps. Le rouge a beaucoup de sens. Mais moi, le sens, j'allais dire, dont je parle assez souvent, c'est que le rouge symbolise le sang du Malien. Le sang de nos grands-parents, le sang de nos arrière-grands-parents qui se sont battus contre l'ennemi, contre tous les ennemis, pour nous assurer enfin l'indépendance.